Dernier volet de notre semaine sur la préparation du bac d'histoire, socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. Et en ouverture de cette émission, je tenais d'abord à vous dire le plaisir que Séverine Yatard, Françoise Camard, Aurélie Marcet et moi-même avons eu à vous proposer cette série de portraits, de documentaires, et remercier chaleureusement les quatre professeurs qui ont accepté de plancher sur la composition d'histoire cette semaine, car ils nous ont montré, au-delà des fantasmes de certains, la réalité des thèmes enseignés auprès des terminales. Et en première partie de cette émission sur socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875, nous aurons un portrait de Rosa Luxembourg, justement, par Sandrine Cotte, professeur à l'Université de Genève, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne, un documentaire de Séverine Yatard et de Françoise Camard. Et puis, en deuxième partie, aux environs de 9h33, nous recevrons Delphine Rachet, professeur d'histoire-géographie au lycée Claude Bernard à Paris, qui développera une composition sur ce thème, socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne, un des plus difficiles, selon elle, du programme devant ses élèves, que nous remercions d'être venus de Terminal L.
Und jetzt möchte ich Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen.
Und Genossen, mein Vorredner hat mich am Schluss seiner Rede eine Märtyrerin und Brüderin der
Wronke, le 7 février 1917, à Mathilde Jacob. Sur ma tombe, comme dans ma vie, il n'y aura pas de phrase grandiloquente. Sur la pierre de mon tombeau, on ne lira que deux syllabes. Zwi, zwi.
Aber das ist die Auffassung des Bürgertums.
C'est le chant des maisons charbonnières que j'imite si bien qu'elles accourent aussitôt. Et figurez-vous que dans ce tzvi-tzvi, qui jusque-là fusait clair et fin comme une aiguille d'acier, il y a depuis quelques jours un tout petit trille, une minuscule note de poitrine. Et savez-vous, mademoiselle Jacob, ce que cela signifie ? C'est le premier léger mouvement du printemps qui arrive. Malgré la neige, le froid et la solitude, nous croyons, les mésanges et moi, au printemps à venir. Et si, par impatience, je ne devais pas vivre ce printemps, n'oubliez pas que sur la pierre de ma tombe, on ne devra rien lire d'autre que Tzvi.
Rosa Luxembourg est une personnalité politique qui a été revendiquée par différents courants de la gauche.
Sandrine Cotte.
D'abord les communistes, qui oblitèrent évidemment un certain nombre d'éléments, la critique en particulier qu'elle fait du léninisme. La gauche non communiste anti-stalinienne, enfin la gauche autour de courants comme socialisme et barbarie, donc qui eux la voient comme une communiste libertaire en quelque sorte. Certains courants de la social-démocratie de gauche qui la revendiquent aussi parce que elle a quand même, elle est entrée dans la social-démocratie allemande en 1898 et elle a joué un rôle important. Elle a défendu un certain nombre de positions qui étaient des positions proches de la majorité de la gauche social-démocrate jusqu'en 1910-1911. Et puis, dernier courant, non négligeable, elle est revendiquée aussi par un certain nombre de féministes, même si elle-même n'a pas pris position véritablement sur la question des femmes ou de manière extrêmement marginale.
Hey, doko, zi, doko.
Elle est née en 1871 en Pologne, enfin dans la Pologne qui n'existe pas à l'époque, donc qui appartient à l'Empire russe. Elle grandit dans une famille donc de la bourgeoisie juive, cultivée, très assimilée, dans laquelle la religion ne joue aucun rôle ou très très peu de rôle. Elle est très brillante, elle entreprend ses études secondaires à Varsovie et comme c'était le cas pour les filles et a fortiori si elles étaient juives, dans la Russie tsariste, elle n'a donc pas le droit d'accéder à l'université. Et donc pour accéder à l'université, elle émigre en Suisse, à Zurich, où elle va donc entreprendre d'abord des études de biologie, ce qui est d'ailleurs tout à fait caractéristique du profil des jeunes filles russes qui viennent faire leurs études en Suisse. Il y en a de très très nombreuses, elles peuplent les bancs des universités suisses. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les étudiantes suisses, qui elles sont très peu nombreuses. Et la plupart font effectivement soit des études de médecine, soit des études scientifiques. Donc c'est tout à fait caractéristique en termes de profil sociologique. Mais finalement, elle rencontre donc à Zurich Léo Yogiches, qui est très engagé dans le mouvement socialiste, qui est originaire de Vilnius. Et c'est en partie, dit-on, sous l'influence de Léo Yogiches, mais probablement aussi sous l'influence de ses propres convictions politiques, qu'elle décide de changer de voie et elle va faire une thèse sur l'industrialisation de la Pologne qui est à cheval entre les sciences politiques et l'économie. Cette thèse, elle la sera soutenue en 1897 et en 1898, elle part en Allemagne. Alors c'est intéressant parce qu'elle arrive en Allemagne, elle rejoint la social-démocratie allemande en tant que femme, ce qui est aussi là une chose difficile parce que c'est en 1898 que la législation allemande, la législation impériale allemande, autorise les femmes à s'engager dans les partis politiques. Jusqu'en 1898, c'était impossible. Et donc, elle fait partie de ces premières vagues de femmes qui rejoignent, en fait, en tant que membres à part entière, puisque auparavant, elles étaient associées, mais de manière mineure, disons, un parti politique, et en l'occurrence, la social-démocratie allemande.
Et donc, elle va s'enquérir, notamment au moment de la campagne électorale, d'aller voir les ouvriers, notamment, je crois, en Haute-Silésie.
Oui, bien sûr. Alors là, pour la social-démocratie allemande, elle joue le rôle de la polonaise en quelque sorte, puisque d'abord elle connaît la langue et aussi parce que donc elle a fondé ce parti social-démocrate du Royaume de Pologne. Elle va dans la partie, je dirais, polonaise dans lequel il y a des Polonais de l'Empire allemand de l'époque. Donc la Silésie appartient à l'Allemagne, mais on y trouve effectivement de nombreux polonophones. Et elle est envoyée, bien sûr, dans ces régions, puisque c'est celle dont elle maîtrise en particulier la langue. Elle peut parler aux Polonais, enfin aux polonophones, dans ces zones.
Ich wollte noch ein paar Worte zur Rede Bebels äußern. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe, denn ich saß da auf der linken Seite und er konnte nur so nach rechts gesprochen. Er sagte, was in Deutschland geschehen könnte und müsste, falls wir durch eine Intervention Preußens in einen Krieg mit Russland gemacht.
Berlin, le 4 mars 1899. Chérie, la lettre de Kautsky que je t'ai envoyée m'a persuadée qu'il faut être ici, sur le terrain du combat. Il faut profiter de la main que me tendent Kautsky et Bebel, qui est sûrement derrière lui, et les voir un peu plus souvent, tant que le fer est chaud. J'ai l'intention d'arranger chez Kautsky ou chez moi la réconciliation de Mehring avec Schönlang, pour qu'à cette occasion, toute la gauche, tu parles, pour une fois se réunisse et se retrouve. Ensuite, peut-être au moment de la polémique avec Bernstein, il faudra s'entendre avec Kautsky. Nous nous partagerons peut-être le travail, etc., etc.
Et c'est aussi le moment, Sandrine Cotte, où déjà, au sein du SPD, donc, il y a cette querelle qui émerge entre réformisme et révolution, et où le représentant du réformisme, c'est Bernstein.
Edouard Bernstein, exactement. Donc, dans cette querelle qui commence, en fait, assez tôt, dès les années 1890, donc, entre, disons, la direction du parti social-démocrate et Edouard Bernstein, elle va prendre position de manière très claire du côté, donc, de l'orthodoxie du parti, qui est très largement défendu par quelqu'un qui est d'ailleurs un ami proche, surtout sa femme d'ailleurs, Karl Kautsky. Alors, le révisionnisme de Bernstein, c'est quand même assez intéressant parce que Edouard Bernstein, à partir de 1890, il considère qu'en fait, il n'est pas vrai, contrairement à la lettre du marxisme et de, surtout de la position prise par Engels, que le capitalisme est en crise et que, en fait, d'après Bernstein, le capitalisme va se maintenir encore pendant très très longtemps. En conséquence de quoi, ce qu'il faut faire, c'est utiliser en fait ces espaces de démocratie pour faire valoir le plus possible les droits en fait, de la classe ouvrière, enfin des opprimés en général et des ouvriers en particulier. Et l'idée, c'est qu'on doit pouvoir, au terme d'un changement graduel, d'une amélioration graduelle de la situation, donc rendre la société capitaliste plus acceptable et même meilleure, et peut-être même en fait la subvertir et la modifier de l'intérieur. Ce qui est évidemment tout à fait contradictoire avec, d'une part, la lettre du marxisme et d'autre part, l'interprétation qu'en fait Rosa Luxembourg et Karl Kautsky, qui pense que on ne peut modifier la société capitaliste que par la révolution et une rupture brutale, en fait.
В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов.
Et Sandrine Cotte, dans quelle mesure, alors, la révolution de 1905 puisqu'on s'en rapproche, hein, oui. va perturber ou non justement les équilibres au sein de ce parti, la social-démocratie allemande.
La révolution de 1905, Rosa Luxembourg, bien sûr, se rend sur le terrain aussi vite qu'elle peut. Bon, elle va être aussi rapidement emprisonnée, mais néanmoins, elle va quand même participer à la révolution de 1905. Ça sera une expérience très importante pour elle, parce que c'est à partir de 1905 qu'elle développe en fait cette idée de la spontanéité révolutionnaire des masses, l'idée donc que le mouvement révolutionnaire doit partir des masses elles-mêmes et pas partir d'un mouvement politique organisé.
En élevant les consciences ouvrières.
En élevant les consciences ouvrières, voilà, toujours en élevant les consciences ouvrières, mais pas en embrigadant d'une certaine manière les ouvriers dans un parti organisé dont ils ne maîtriseraient pas complètement les rouages. Donc l'idée du militantisme professionnel, c'est quelque chose qui lui est étranger et dès cette période, d'ailleurs, elle va s'opposer à Lénine sur ce point-là. Donc au sein de la social-démocratie allemande, la révolution de 1905, ça pose effectivement surtout la question de la forme que va prendre la révolution. Et à partir de ce moment-là, Rosa Luxembourg va très clairement commencer à prendre une voie singulière à l'intérieur de la social-démocratie allemande et en particulier autour de cette question de l'auto-organisation ouvrière. Elle commence à engager une critique de la bureaucratie de parti, donc au sein de la social-démocratie à l'issue de cette expérience.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle écrit Grève de masse, parti voilà, syndicat. En fait, exactement. Elle fait une critique de la bureaucratie syndicaux.
Exactement, elle fait une partie de la bureaucratie du parti de la social-démocratie et des syndicats. Et elle développe donc cette idée de la spontanéité révolutionnaire des masses.
Les dirigeants syndicaux prétendent toujours que le mouvement n'est pas assez fort pour lancer une grève générale. Mais ils ne le savent pas à l'avance. Ils sous-estiment la maturité politique du prolétariat inorganisé. En période non révolutionnaire, le nombre d'adhérents, les résultats des élections, ne donnent qu'une faible idée du potentiel révolutionnaire. Dans la révolution, la conscience de classe est pratique, active. Le rôle de la social-démocratie est surtout de diriger politiquement le mouvement, de le hâter en expliquant aux masses pourquoi la révolution va venir et quels sont les facteurs internes qui vont la précipiter. En un mot, de fournir au prolétariat allemand pour la période des luttes à venir une tactique et des objectifs. Grève de masse, parti et syndicat. 1906.
Alors, d'une part, Rosa Luxembourg, elle a un positionnement, y compris d'ailleurs par rapport à ses collègues et collègues de parti polonais, une position très anationale.
Sandrine Kott.
Elle est très proche de Marx et Engels sur la position nationale, c'est-à-dire qu'elle pense que la question nationale doit venir en second par rapport à la question de classe et qu'il faut d'abord résoudre la question de l'oppression de classe et que c'est à travers cette question de l'oppression de classe que se résoudra la question nationale en partie. Et en partie, donc, pour la question de l'indépendance de la Pologne, son positionnement, c'est qu'il faut combattre le régime tsariste, qui est un régime oppresseur, et que c'est au sein de ce combat qu'éventuellement peut se formuler une revendication nationale polonaise. Mais elle ne pense pas que la revendication nationale polonaise soit première par rapport au combat sur l'oppression tsariste. Donc ça, c'est une première chose qui la distingue de la plupart de ses camarades de la social-démocratie, parce qu'elle critique aussi beaucoup le nationalisme allemand à l'occasion. Et en particulier la manière dont le nationalisme allemand traite aussi les minorités de l'Est de l'Empire allemand, et en particulier les minorités polonophones et les Polonais. Mais au nom, pas du tout encore une fois du nationalisme, mais au nom en fait de la défense des opprimés. C'est toujours le point de vue qu'elle adopte. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle elle se distingue clairement de ses camarades de parti. Mais une deuxième chose, c'est qu'elle formule une critique assez vive du colonialisme, qui va être reprise dans la critique de l'économie politique qu'elle a écrite en 1916, mais qui est publiée par Paul Lévy donc en 1921, donc qui est la deuxième personne importante dans son existence après Léo Yogichès, le deuxième homme important. Et dans cette critique du colonialisme, elle fait une critique radicale de l'ensemble du système colonial, qu'elle voit, dans, alors là pour le coup assez proche de la tradition léniniste, comme une des formes que prend en fait le capitalisme impérialiste. Donc elle est très singulière sur ce plan-là. C'est une véritable internationaliste. Et son internationalisme, eh bien, la dernière forme qu'il va prendre, donc on l'a vu, contre le nationalisme, contre les revendications nationales étroites, contre le colonialisme, et la troisième forme, c'est contre la guerre. Et au moment où il est question de voter les crédits de guerre, donc comme on le sait, l'ensemble du groupe social-démocrate, qui est quand même le plus gros groupe parlementaire à l'époque, hein, ne l'oublions jamais, c'est le premier parti politique en Allemagne en 1914 en termes de nombre de députés et puis de nombre d'électeurs. Ce parti social-démocrate va voter les crédits de guerre. Rosa Luxembourg, elle, n'est pas députée, mais elle fait entendre très fort donc, son opposition à ce vote des crédits de guerre, ce qui la met tout de suite dans la minorité au sein de la social-démocratie. Il y a effectivement un groupe qui se constitue assez rapidement, donc dès 1914 et puis surtout de manière précise en 1915. Donc il y a Karl Liebknecht et puis Clara Zetkin en particulier, bon, d'autres aussi, mais ce sont les plus importants, qui commencent à prendre des positions donc hostiles à la guerre, auxquelles se joint d'ailleurs, ne l'oublions pas, parce qu'ils ont été ennemis mais ils sont réconciliés à ce moment-là, Bernstein, qui lui aussi donc est hostile à la guerre et prend des positions donc contre antimilitaristes, on peut dire véritablement. Et l'ensemble de ces personnalités, plus d'autres, vont fonder à ce moment-là donc ce qu'on appelle l'USPD, c'est-à-dire le SPD indépendant en quelque sorte, c'est un groupe, d'où va ensuite encore scissionner le groupe spartakiste, qui va lui-même donc devenir en 1919 le Parti communiste.
Et à ce moment-là, en tous les cas, en cette période, il y a aussi la Révolution de 17.
Donc la Révolution de 17, Rosa Luxembourg est en prison au moment où elle éclate. Donc elle suit cette révolution en prison et elle a d'abord un accueil. Rosa Luxembourg accueille donc la Révolution de 1917 de manière extrêmement positive et même enthousiaste, mais très rapidement, elle formule des réserves vis-à-vis du caractère quasi dictatorial qui très tôt, donc comme on le sait, se met en place.
In dieser Stunde proklamieren wir die freie sozialistische Republik Deutschland.
Donc d'abord, Rosa Luxembourg, elle fonde, elle est une des cofondatrices, donc de la Ligue spartakiste. Elle a son propre journal, donc qui s'appelle Die Rote Fahne, le drapeau rouge, et le programme donc de la Ligue spartakiste est rédigé par Rosa Luxembourg. Donc elle est absolument partie prenante du mouvement. Et la Ligue spartakiste a est donc résolument internationaliste dès le départ et a pour fonction, dans l'esprit de Rosa Luxembourg, en fait, d'accompagner la révolution donc de novembre 1918, donc le mouvement révolutionnaire qui va clore en quelque sorte la Première Guerre mondiale en Allemagne, qui est déclenchée tout à la fois par les marins et puis par ailleurs aussi par les ouvriers de l'arrière. Et ces ouvriers, comme ces marins, donc vont organiser assez rapidement des conseils, donc ce qu'on a l'habitude d'appeler des soviets, mais en allemand il y a un terme pour dire ça, donc les Räte, les conseils. Et Rosa Luxembourg, elle, est favorable justement à l'accompagnement de ce mouvement qu'elle voit comme un mouvement spontané, n'est pas du tout favorable à un encadrement de ce mouvement par un parti de militants organisés. Donc on retrouve là de nouveau dans la révolution donc allemande de 1918-1919, donc cette même scission entre quelle est la part de la spontanéité révolutionnaire des masses et quel va être le rôle du parti dans l'encadrement de la révolution. Donc je rappelle que donc l'empereur Guillaume II abdique, qu'à ce moment-là il y a la proclamation de la République. En fait, la République est proclamée deux fois. Elle est proclamée par Karl Liebknecht d'un côté, République révolutionnaire. Et puis il y a la proclamation par Scheidemann et par les sociodémocrates, donc d'un autre côté. Ce qui fait que finalement, il va y avoir une lutte fratricide qui va s'engager entre la social-démocratie allemande et puis les courants révolutionnaires qui en sont issus. Il faut bien comprendre que ces courants révolutionnaires sont directement issus de la social-démocratie allemande. Ils en sont issus depuis pas si longtemps que ça. Et c'est à ce moment-là que Gustav Noske, donc, qui est responsable au sein du gouvernement provisoire de l'armée, va faire intervenir les corps francs c'est-à-dire des troupes démobilisées qui sont très radicalisées à l'extrême droite, contre donc la révolution, en particulier berlinoise, et puis ensuite il fera également intervenir en Bavière, contre la révolution munichoise. Et les dirigeants de cette révolution vont être pratiquement systématiquement assassinés par ces corps francs, et ils seront donc couverts en fait par le gouvernement provisoire dirigé par Ebert, donc par les sociodémocrates. Et ce qui va faire évidemment un conflit qui va durer longtemps entre les communistes et les sociodémocrates en Allemagne. Donc il faut comprendre ça pour aussi comprendre la manière dont ensuite les choses se sont passées dans les années 30 et le fait qu'ils n'aient pas lutté véritablement ensemble contre la montée du nazisme. Il y avait ce passif extrêmement fort entre communistes et sociodémocrates au moment donc de la révolution de 1918-1919, dont Rosa Luxembourg a été victime.
Janvier 1919. L'ordre règne à Varsovie. L'ordre règne à Paris. L'ordre règne à Berlin. Tous les demi-siècles, les gardiens de l'ordre lancent ainsi dans un des foyers de la lutte mondiale leur bulletin de victoire. Et ces vainqueurs qui exultent ne s'aperçoivent pas qu'un ordre, qui a besoin d'être maintenu périodiquement par de sanglantes hécatombes, va inéluctablement à sa perte. Cette semaine spartakiste de Berlin, que nous a-t-elle apporté? Que nous enseigne-t-elle? Au cœur de la mêlée, au milieu des clameurs de triomphe de la contre-révolution, les prolétaires révolutionnaires doivent déjà faire le bilan des événements, les mesurer, eux et leurs résultats, au grand étalon de l'histoire. La révolution n'a pas de temps à perdre. Elle poursuit sa marche en avant, par-dessus les tombes encore ouvertes, par-delà les victoires et les défaites, vers ses objectifs grandioses. Et le premier devoir de ceux qui luttent pour le socialisme internationaliste, c'est d'étudier avec lucidité sa marche et ses lignes de force.
Rosa Luxembourg, elle a une mort tragique avec Karl Liebknecht.
Sandrine Kott.
Ils ont été assassinés le 15 janvier 1919 par les corps francs qui avaient été mobilisés par les sociodémocrates au pouvoir à l'époque, donc Friedrich Ebert, et en particulier celui qui était censé donc faire régner l'ordre, qui était Noske. Donc son corps a été jeté dans le Landwehr Canal, il a été retrouvé, on n'est pas sûr que ce soit véritablement le sien d'ailleurs, plus tard, et ça a donné lieu à un enterrement en juin 1919, qui a été un enterrement qui a rassemblé en fait les forces de la gauche.
Meine Kräfte zum Überleben. Und für diesen Augenblick veranlassen Sie, dass ich zu meinem Recht komme. Und mein Recht heißt Freiheit!
Rosa Luxembourg, elle est absolument exceptionnelle, à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une femme qui fait de la politique et qui en fait au plus haut niveau. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Clara Zetkin dans la social-démocratie allemande. Or, à la différence de Clara Zetkin, elle ne s'engage pas pour la cause des femmes. Clara Zetkin est, au sein de la social-démocratie allemande, la femme qui parle pour les femmes. Rosa Luxembourg, c'est une femme qui ne parle pas pour les femmes. Elle parle en tant que humain, disons, socialiste, internationaliste, spontanéiste. Néanmoins, elle va quand même prendre position de manière marginale, mais à au moins une reprise de manière importante en faveur des femmes et en faveur du vote des femmes, en 1912 en particulier. Mais encore une fois, elle ne prend pas position en faveur du vote des femmes sur un principe différentialiste, parce que les hommes votent, les femmes doivent aussi voter, mais toujours sur un principe universaliste. On doit voter, les femmes doivent voter comme les hommes, et c'est ainsi qu'elles pourront s'engager dans la cause révolutionnaire, qu'elles pourront être donc s'engager dans la vie politique au même titre que les hommes. Néanmoins, elle est réclamée par les féministes parce que elle représente une des formes de l'émancipation féminine la plus aboutie en fait à cette époque. Elle a fait des études, elle a mené une vie sentimentale extrêmement libre. Elle a, pour arriver en Allemagne et pour pouvoir s'engager dans la social-démocratie allemande, elle a fait un mariage blanc. Donc, elle a mis d'ailleurs beaucoup de temps à divorcer puisque ça a été extrêmement compliqué. Et par ailleurs, elle a eu une vie sentimentale donc très libre avec un certain nombre d'hommes qui ont souvent été ses compagnons de parti par ailleurs. Et elle a tenu vraiment toute sa place, une place à part entière dans la social-démocratie allemande. Elle a même, et c'était une chose extrêmement importante à l'époque, enseigné à l'école du parti. Elle a enseigné donc l'économie politique à l'école du parti social-démocrate, et elle a été considérée comme une des meilleures enseignantes. Elle a quand même succédé à Hilferding, ce qui n'est pas rien, puisque c'était quand même un des classiques de l'économie politique marxiste. C'est vraiment quelqu'un qui, à tous les égards, a été une femme qui a manifesté à tous égards une forme de l'émancipation la plus poussée qu'on puisse imaginer, intellectuelle, personnelle, morale, etc.
Merci à Sandrine Cotte. Les lectures étaient effectuées par Julia Vadis-Bogart. Les extraits du film de Margaret von Trotta, Rosa Luxembourg, de 1986. Prise de son, Alain Joubert. Et mixage, Claude Nior.
France Culture.
La fabrique de l'histoire.
Emmanuel Laurentin.
Et après ce portrait documentaire signé par vous, bonjour Séverine.
Bonjour.
Et Françoise Camard, eh bien nous avons le plaisir de recevoir une professeure, Delphine Rachet, bonjour.
Bonjour.
Ainsi que ses élèves du lycée Claude Bernard à Paris pour plancher sur ce qui, selon vous, est un des passages les plus compliqués de ce programme de terminale de préparation au bac, à savoir socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875, Delphine Rachet.
Oui, c'est un sujet qui est difficile pour la plupart de nos élèves parce que, d'une part, il fait appel à des connaissances complexes, précises sur le plan idéologique, découvrir le mouvement socialiste, le mouvement marxiste à l'intérieur. Le vocabulaire est extrêmement précis et nos élèves n'ont pas ces notions-là. La plupart du temps, ce sont des élèves qui sont en train de construire leur culture politique. Donc, je pense que c'est une première difficulté. Et puis, ce sont des enfants de l'après-guerre froide. Donc, ils n'ont pas connu l'affrontement idéologique avec le communisme.
Ouais,
d'autant plus qu'il s'agit de l'Allemagne, en plus.
Et voilà.
C'est pas la France, c'est pas le mouvement ouvrier.
Voilà, la deuxième difficulté, c'est que c'est l'histoire allemande. Ils ont peu de repères, ils ont peu de références, ça leur est peu familier. Surtout la première période du programme, évidemment, le nazisme leur parle un peu plus. Et c'est tout. Après, RFA, RDA, oui, ils l'ont un peu vu. Mais donc voilà, la difficulté, elle est là. Mais l'intérêt de ce sujet, de ce chapitre, c'est leur montrer l'émergence du socialisme qui devient cette force politique majeure qui couvre dans tout le XXe siècle.
Alors, donc, on voit bien les difficultés, mais aussi les avantages d'un tel sujet. Comment composeriez-vous, Delphine Rachet, une copie, entre guillemets, peut-être même idéale, de Terminal, donc, autour de cette question du socialisme et du mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875. D'abord, il faut, j'imagine, parler des bornes chronologiques, peut-être, déjà.
Oui, commencer par 1875, donc dans une introduction de bac, de copie de baccalauréat, évidemment, il faut définir les termes du sujet, les bornes, le cadre spatial, le cadre chronologique. Donc, moi, je pense qu'il faut démarrer par 1875 et dire simplement que c'est la naissance du Parti socialiste des ouvriers d'Allemagne, que ce parti naît dans le contexte, au sein du jeune empire allemand, dans le contexte de la seconde industrialisation en Allemagne. Rappeler que c'est une industrialisation qui est très rapide, qu'elle entraîne une mutation radicale des conditions de travail et de vie. Des millions d'hommes et de femmes quittent les campagnes, s'installent dans les faubourgs pour travailler dans les usines, dans les conditions très précaires et très difficiles que l'on connaît. Et puis expliquer donc rapidement ce que c'est que ce mouvement ouvrier allemand, montrer que ce nouvel ordre social est dénoncé par les ouvriers eux-mêmes, par des penseurs qui cherchent à améliorer la condition ouvrière, tant par l'action syndicale que par l'action politique. Et terminer, avant de définir le socialisme, que par l'idée que ce mouvement ouvrier en Allemagne est dominé par le socialisme. Et on redonne une rapide définition, alors très rapide, du socialisme. Dire que c'est un ensemble de doctrines qui est née depuis 1830 et que l'objectif, c'est de résoudre la question des inégalités sociales par la construction d'une société plus juste socialement, où le profit serait partagé. Et que c'est la démocratie sociale. L'objectif, c'est cette démocratie sociale. Et qu'au sein du socialisme, il y a plusieurs moyens d'action, plusieurs mouvements qui sont envisagés et qui divergent. L'action marxiste, révolutionnaire d'un côté, ou les réformes législatives. Mmh.
Alors donc ça c'est pour la naissance, pour étendre du mouvement, mais le thème dit qu'on doit aller jusqu'à nos jours. Alors j'imagine que la borne la plus proche de nous est difficile à fixer, puisque quand on dit jusqu'à nos jours, c'est jusqu'à quand, Delphine Rachet?
Alors moi je dirais les années 2000, et finalement peut-être s'arrêter à l'arrivée au pouvoir d'Angela Merkel, enfin, ou évoquer la naissance de la nouvelle gauche allemande, Die Linke. Mais en tout cas, la problématique qu'on pourrait poser, c'est très simplement, c'est dire quelle est la place du mouvement ouvrier et du socialisme en Allemagne depuis 1875. Comment se confronte-t-il donc aux grandes crises et aux changements de société du XXe siècle?
Oui, avec quand même une difficulté que vous allez aborder évidemment dans cette composition, Delphine Rachet, c'est que ça n'est pas la même Allemagne de 1875 à 1930, aux années 1930, de 1945 aux années 1990 et depuis, d'une certaine façon. Donc il y a plusieurs Allemagnes dans cette Allemagne.
Et oui, donc d'où le plan chronologique, on est sur l'évolution, et c'est montré, je pense qu'il faut beaucoup contextualiser systématiquement cette composition. C'est rappelé ponctuellement sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est une copie de bac, et puis ils ont 2h45, donc c'est rapide hein, pour la rédiger. Donc insister sur les différents contextes brièvement au sein de chaque partie. Donc moi je proposerais trois parties. Une première partie qui irait de 1875 à 1918, qui montre l'essor du socialisme et du mouvement ouvrier en Allemagne. Finalement c'est l'objet du
documentaire qu'on a
documentaire, c'est évoquer l'installation dans le paysage politique allemand de ce mouvement ouvrier. 1918-1945, là on est dans un contexte révolutionnaire, et donc c'est montrer comment ce socialisme et ce mouvement ouvrier se divisent, et que cette division leur est fatale face à la montée du nazisme. Et puis 1945 à nos jours, là encore, nouveau contexte, celui de la guerre froide, montrer comment le socialisme et le mouvement ouvrier sont confrontés à l'épreuve de la guerre froide, et comment ils évoluent depuis la réunification.
Donc on va commencer par la première partie, ce qui me paraît logique chronologiquement parlant, Delphine Rachet, une partie qui se résume en partie à ce qu'on a entendu de la bouche de Sandrine Cotte, professeure à l'Université de Genève, spécialiste de cette histoire du socialisme en Allemagne, dans le documentaire préparé par Séverine Yatin et par Françoise Camard.
Oui, donc il y a trois points à aborder dans cette sous-partie pour montrer justement comment le mouvement ouvrier allemand, qui est un mouvement d'opposition dans le jeune empire, devient et s'impose comme une force politique. Donc une première sous-partie où on évoque la naissance de la social-démocratie allemande. Donc évidemment repartir du congrès du Gotha, on peut évoluer là. Enfin il faut évoquer l'importance de la classe ouvrière en Allemagne. C'est quand même 40% de la population active. C'est une classe qui s'organise avec syndicalement notamment, mais commencer par ce congrès du Gotha, et sans rentrer dans les détails, puisque ça a été évoqué, mais montrer que c'est l'union des deux grandes tendances, puisque les deux partis ouvriers allemands qui existaient, celui de Lassalle d'un côté, celui de Liebknecht et de Bebel, sont l'un est réformiste, l'autre est marxiste, et pour construire finalement un parti fort qui puisse agir réellement, ces deux tendances s'unissent. Donc il y a vraiment cette idée de conciliation de deux objectifs, c'est-à-dire pour réaliser la démocratie sociale, il faut à la fois, on envisage de la changer radicalement, cette société, en finir avec le capitalisme et le salariat, et en même temps, on envisage de mettre en place très vite, on vise des changements concrets par des mesures de la vie des ouvriers dans le cadre économique existant.
Et est-ce qu'on précise, Delphine Rachet, qu'à ce moment-là, c'est un mouvement qui est réprimé?
Oui, il faut le dire.
Et qu'il y a des lois contre le mouvement, justement, socialiste, contre les ouvriers, contre la liberté d'expression, contre la liberté d'association, etc.
Mais il faut évoquer, effectivement, Miss Park qui interdit en 1878 le parti. Alors, interdit le parti les journaux. Par contre, à préciser dans une copie, pour que les élèves puissent comprendre comment il devient une force politique aussi, c'est que le SAP a toujours le droit de présenter des candidats aux élections législatives. Donc, ils sont présents tout doucement au Reichstag. Deuxième temps, c'est de montrer dans cette première partie l'amélioration de la condition ouvrière. Évoquer la place du syndicalisme allemand qui est très fort. 1892, c'est l'unification des syndicats libres sous la direction de Karl Legien, un syndicalisme qui s'organise en branche d'activité, donc ça c'est intéressant, et qui est une force réelle, qui permet d'améliorer les conditions de travail au sein des entreprises. Et puis par l'action politique, et on peut évoquer les lois sociales de Bismarck.
Tout de même, il y a un État social, ça se crée dans un État difficile au point de vue de la liberté d'expression, mais qui par ailleurs est un État qui favorise peut-être plus que ses voisins la question des ouvriers, la question sociale, avec des lois sociales un peu particulières et très en avance par rapport à ses voisins.
Par rapport à ses voisins, donc c'est Bismarck qui est à l'origine de ça, on peut s'étonner de ça, hein. Pourquoi il l'a fait, mais en tout cas c'est une façon d'intégrer pour lui cette classe ouvrière, lui faire comprendre qu'ils peuvent faire confiance au jeune État allemand, à l'Empire allemand. Donc ces lois sont poursuivies après le départ de Bismarck, et effectivement c'est les lois d'assurance maladie, d'invalidité et sur l'accident du travail. Terminer cette sous-partie en expliquant que finalement, en 1912, le mouvement ouvrier allemand est très fort et que le Parti social-démocrate, parce qu'entre-temps il a changé de nom, est devenu le premier parti au Reichstag.
Mmh. Alors, ensuite, on continue comment ?
On continue. Là, c'est ce qui est vraiment l'objet du documentaire, c'est montrer, donc je vais aller assez vite, que c'est un mouvement qui est traversé par des divisions profondes. Donc, un point, c'est le congrès d'Erfurt absolument abordé en 1891, montrer que changement de nom, on parle maintenant du Parti social-démocrate allemand, et que ce parti s'oriente, enfin, devient marxiste complètement dans ses statuts, mais qui a une opposition forte à l'intérieur du parti. Donc Rosa Luxembourg a essayé de... Enfin, l'histoire de Rosa Luxembourg le montre bien, avec le révisionnisme de Bernstein. Mmh. Et puis, moi, je pense que dans une copie de bac, faut pas détailler trop ça. Faut juste simplement montrer qu'il y a ces tensions.
On le sait.
Et puis, pour le montrer et l'illustrer, montrer que ces divisions sont réactivées en 1914 avec l'entrée en guerre. Le fait que, justement, ce qui amène à la création de la Ligue Spartakiste, hein, avec Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui refusent complètement cette entrée en guerre.
Vous allez jusqu'où dans cette première partie, justement, sur les prémices, la naissance de ce mouvement ouvrier? On va jusqu'à la révolution de 1918, on s'arrête à quel moment?
1918, moi, c'est un choix. 1918, moi je pense qu'il faut démarrer au moment de la naissance de la République allemande. Mmh. Donc la deuxième partie, 1918-1945, de la scission à la répression du socialisme et du mouvement ouvrier allemand. Et là, on contextualise. Donc, montrer qu'on démarre là-dessus en disant qu'en 1918, c'est la fin de la guerre, l'effondrement de l'Empire allemand, et qu'on est dans un contexte révolutionnaire. C'est celui de la révolution bolchevique. Et que Lénine est en train de réaliser le rêve des socialistes du monde entier. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en place cette révolution et peut-être réaliser le communisme et une démocratie sociale réelle. Donc, dans une première partie, sous-partie, indiquer. Dans quel contexte naît ce communisme allemand? Et moi, je pense qu'il faut partir de la naissance de la République allemande, montrer la tension immédiate, ce qui était dit dans le documentaire, entre Scheidemann, SPD qui la proclame, qui parle de la République allemande, qui garantit, qui promet l'ordre. Et puis, à l'opposé, deux heures après, Liebknecht qui lui dit, non, c'est la République libre allemande et qui annonce l'abolition du salariat. Mmh. Donc, ça y est, la division est là, les spartakistes rentrent dans leur logique insurrectionnelle. C'est l'occasion rêvée de mettre en place cette révolution. Ils s'opposent systématiquement au SPD, création du Parti communiste, le KPD, le 31 décembre 1918. Et puis, l'affrontement avec les forces de l'ordre, c'est la semaine sanglante, qui se termine par l'assassinat des deux
leaders.
Et terminer cette première sous-partie pour les élèves, expliquer que c'est un traumatisme pour le mouvement ouvrier allemand. C'est-à-dire que pour les communistes, les socialistes sont des tueurs d'ouvriers. Enfin, ils ont tué leurs frères. Mmh. Et que là, la discussion, l'entente, l'union va être compliquée.
Et donc, cela pèse évidemment sur la suite. Mais la suite, il existe tout de même un socialisme en Allemagne dans les années 20 et dans les années 30. Et il faut donc le raconter aussi, cela, dans la copie.
Oui, deuxième sous-partie, c'est la République de Weimar, montrer ses divisions. Le SPD connaît et devient un parti politique qui connaît l'exercice du pouvoir, qui améliore la condition allemande, la condition ouvrière, pardon, mais en même temps, qui est confronté à l'opposition des communistes, et qui est terrible, c'est quelque chose qui sera terrible face à la montée du nazisme, dans le contexte de la gravissime crise économique et sociale que connaît l'Allemagne, où là, les communistes prennent, non seulement s'opposent, mais prennent comme cible le SPD, et il n'y a pas d'union de gauche possible. Mmh. Et cette impossible union de la gauche allemande permet, une des choses, c'est pas la seule évidemment, qui permet au nazisme d'accéder au pouvoir en novembre 1932, c'est eux qui deviennent le premier parti.
Alors via Moscou, Delphine Rachef, faut préciser que c'est aussi...
Oui. Voilà.
tout ça vient du stalinisme, entre autres, etc. Les social traites, le social fascisme, je veux dire.
Et le principe de lutte contre classe édicté par Staline en 1928, qui font qu'effectivement, ça devient une position à tenir par rapport aux sociodémocrates.
Dans la dernière sous-partie, peut-être, de cette partie-là, donc la deuxième partie de votre composition, Delphine Rachet, j'imagine qu'on évoque la question du socialisme et du mouvement ouvrier sous le nazisme, c'est cela ?
Tout à fait, un mouvement ouvrier qui est persécuté par le nazisme. Donc, dès 1933, le KPD puis le SPD sont interdits, sont réprimés. Le mouvement ouvrier est persécuté, donc il devient clandestin. C'est l'exil. Bon, c'est la persécution, c'est les premiers qui vont être dans les camps de concentration, sont des adhérents, des militants, des membres de ces deux partis. Donc, un mouvement ouvrier qui est d'un côté complètement étouffé et de l'autre qui est encadré par les nazis, parce que les nazis veulent tenir absolument cette classe ouvrière. Hitler en a peur. Donc, tous les syndicats sont supprimés. Par contre, est créé un syndicat unique qui est obligatoire et ils sont encadrés par l'organisation, la force par la joie.
Est-ce qu'on mentionne dans une copie comme celle-ci le fait que l'idéologie nazie se réclame d'une certaine partie, certes de l'anticommunisme, mais du socialisme dans son titre même? Est-ce qu'on dit que justement cette question de national-socialisme se précise, ou est-ce qu'on ne le mentionne pas parce qu'on n'a pas le temps de le mentionner?
Moi, je pense qu'on n'a pas le temps et je pense que c'est très compliqué.
D'accord. Ensuite, comment continue-t-on la copie Delphine Rachet?
Donc, troisième partie, 1945 à nos jours. Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne à l'épreuve de la guerre froide et depuis la réunification. Même chose, changement de contexte. C'est le contexte de la guerre froide, l'affrontement idéologique entre communisme et libéralisme. Et cet affrontement, l'Allemagne l'incarne évidemment pleinement. Deux Allemagnes et peut-être finalement deux visions du socialisme. Donc trois sous-parties, une première sur la RDA, le socialisme en RDA, une seconde sur la RFA et la dernière sur le socialisme et le mouvement ouvrier en Allemagne depuis la réunification.
La chute du mur et la réunification. Donc, première partie. Donc.
Première sous-partie sur le socialisme et le mouvement ouvrier en RDA, donc 1945-1990. Dans la zone soviétique, le premier parti qui renaît, logiquement, c'est le KPD, c'est le parti communiste. Et on a, à un moment donné, le mouvement ouvrier allemand peut avoir l'espoir d'une réunion, puisque est créé le SED, le Parti Socialiste Unifié, en 1946. Mais très vite, il est pris en main, noyauté par les communistes. 7 octobre 1949, c'est la naissance de la RDA, et c'est la volonté de réaliser le socialisme réel. Dans ce pays-là, c'est le pays des ouvriers. Donc c'est ce rêve-là qui est mis en place. Donc, qui se met en place, enfin, c'est le rêve d'un pays qui mettrait en place le communisme avec une économie collectivisée et planifiée, qui officiellement est une démocratie, mais on est sur un modèle soviétique. Donc très vite, la réalité rattrape tout le monde. Ce pays construit pour le mouvement ouvrier allemand est un État autoritaire. Donc les élèves doivent noter que le SED est un parti unique et que le mouvement ouvrier est contrôlé et réprimé.
En 53, par exemple.
Par exemple, et là, il faut si on a le temps, c'est développer
les émeutes de la Karl Marx.
Voilà, la Karl Marx allée avec le 17 juin 1953, montrer que c'est la population est encadrée et surveillée et que c'est un pays qui connaît une économie de pénurie. Donc le paradis socialiste n'a pas tenu ses promesses. Mmh. Par contre, en RFA, grand B, socialisme et mouvement ouvrier en RFA de 1945 à 90, peut-être dire que la RFA tire sa légitimité de l'anticommunisme. Donc le parti communiste, le KPD, est un parti qui devient plus que suspect. Il est même interdit en RFA entre 1956 et 1968. Et les sociodémocrates allemands, ouest-allemands, montrent leur différence, justement, là. Et c'est le congrès de Bad Godesberg de 1959 où toutes les références au marxisme sont abandonnées. Donc on accepte le capitalisme et la démocratie libérale en Allemagne.
Est-ce qu'on évoque dans cette partie sur la RFA la naissance de mouvements gauchistes qui se réclament de près ou de loin du mouvement socialiste ou du mouvement communiste, par exemple?
Oui, moi je pense. S'ils ont le temps, oui, évoquer cette extrême gauche avec l'APO et puis l'expérience malheureuse de la bande Abadère. Enfin, montrer qu'une partie tombe dans le terrorisme.
D'accord.
Et puis, évidemment, c'est dans cette sous-partie-là, il faut présenter le modèle social allemand, la co-gestion.
Oui, c'est ça. Donc, parler des syndicats, la façon dont syndicats et gouvernement négocient et discutent en permanence autour de la question de l'évolution sociale en Allemagne de l'Ouest.
Et enfin, Grancey depuis la réunification, quelles évolutions pour le mouvement ouvrier et le socialisme dans l'Allemagne réunifiée, donc depuis le 3 octobre 1990. D'une part, on est dans un contexte qui est celui de l'échec du communisme avec la fin de la guerre froide. Le SED va disparaître, hein. L'idéologie communiste est discréditée. Mais en même temps, on est dans un contexte qui est complètement différent. C'est-à-dire que les choses sur le plan économique ont évolué. C'est-à-dire que le secteur industriel a reculé. On assiste à une tertiarisation de l'économie. Donc, les mentalités, les besoins sont différents. Donc, quelle réponse pour les sociodémocrates allemands apporter à ces évolutions économiques et sociales? Et puis, de nouvelles préoccupations se développent en Allemagne avec les préoccupations environnementales. Donc, là aussi, faire un petit point sur le retour au pouvoir du SPD avec l'élection de Gerhard Schröder, en montrant le glissement.
Donc les lois Hartz et compagnie.
Exactement, montrer qu'ils acceptent, la libéralisation de l'économie et évoquer ces lois Hartz de 2002.
Voilà, donc on a fini la copie, mais pour la finir complètement, il faut aller à la conclusion. Et que dit-on en conclusion, Delphine Rachet?
Alors en conclusion, on peut dire que l'évolution du socialisme et du mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875 montre bien comment le socialisme s'impose comme une force politique dans le pays et comment il évolue confronté aux grandes crises du XXe siècle. On l'a pas détaillé là dans le plan, mais montrer qu'en soutenant la Première Guerre mondiale, le SPD est sorti de son isolement politique, que la classe ouvrière s'est intégrée à la révolution, à la nation allemande, et que le contexte révolutionnaire des années 1920 avec la révolution bolchevique contribue au développement d'un climat révolutionnaire qui divise ce mouvement ouvrier ou allemand, et déchirement qui est consacré par la guerre froide. Et on termine en disant qu'aujourd'hui, la mondialisation, qu'on aurait dû évoquer un peu plus dans la troisième sous-partie, pose la question du positionnement du SPD et des syndicats.
D'accord, donc on voit bien la complexité. On y ajoute un peu de Brecht ou pas du tout dans cette copie, parce que le personnage de Brecht est un personnage qui couvre une partie de la période, par exemple.
Oui, on peut le citer, on peut faire référence à lui.
Alors, Séverine.
Les autres aussi, peut-être, un film que, je sais pas, les élèves auront vu.
Oui, on peut, les films, moi, c'est ce que, s'ils peuvent voir des films qui n'ont pas beaucoup sur la période, dont Le Rosa Luxembourg de Margarete von Trotta, pour qu'ils comprennent la vie, finalement, ces débats internes, à la gauche allemande d'avant 1918. La vie des autres et Goodbye Lénine, mais qui sont pas forcément en lien directement, mais qui leur montrent, qui leur permettent de sentir, de mettre des images sur cette RDA et la vie en RDA. Voilà.
Alors, on va passer aux questions. Alors, une première question.
Bonjour, moi je m'appelle Yasser et j'aurais deux petites questions pour vous, Madame Rachet. Donc, la première, déjà, vous avez évoqué le révisionnisme. Est-ce que vous pourrez nous expliquer plus profondément qu'est-ce que c'est que le révisionnisme?
Alors, le révisionnisme, c'est Bernstein qui en est le chef de file en 1891. Il remet en cause, il révise la théorie marxiste. C'est-à-dire que Marx estime que la société capitaliste crée de telles inégalités entre la bourgeoisie et le prolétariat que cela conduit inéluctablement à une révolution. Parce que les conditions de vie des ouvriers vont se dégrader tellement que tout s'effondrera. Et Bernstein dit en 1891 mais non, c'est pas le cas. On voit bien que mine de rien, le capitalisme n'est pas du tout en train de s'effondrer et la condition ouvrière s'améliore. Donc il pense que prôner la révolution n'est pas une chose juste et qu'on peut améliorer les choses et on peut changer les choses dans le cadre légal et réformiste. Donc c'est ça sa grande... Il révise, on l'appelle révisionniste parce qu'il révise les théories de Karl Marx.
Une deuxième question, vous avez une deuxième question?
Alors, oui, moi je vais parler les camarades.
Bonjour, je m'appelle Cassandre. Alors j'aimerais savoir quelles sont les raisons du soulèvement spartakiste en 1919?
C'est le rêve de c'est mettre en place cette révolution. C'est la révolution communiste, c'est faire comme en Russie. Enfin, surtout qu'en plus, les sociodémocrates allemands pensaient que la révolution aurait lieu en Allemagne. Enfin, et là, les Russes ont fait les choses plus vite qu'eux, mais surtout, c'est que les conditions sont pour eux réunies. C'est-à-dire qu'on y est. On va pouvoir, dans cet empire qui s'effondre, changer complètement les choses.
Oui, une autre question?
Bonjour, je m'appelle Jennifer et j'aurais voulu savoir pourquoi le socialisme est arrivé qu'à partir de la révolution industrielle en Allemagne.
Là, c'est tout, parce que il est complètement lié, les idées socialistes sont liées au contexte de cette industrialisation. C'est dénoncer ces conditions de travail et de vie extrêmement inégalitaires que connaissent des millions de gens et essayer de dire qu'est-ce qu'on fait, que fait-on pour changer les choses, pour rendre une société, trouver et mettre en place une société plus juste.
Oui, il serait compliqué, déjà que le thème est assez compliqué, de revenir aux idées libérales des années 1820-1830 qui précèdent la révolution les révolutions de 1848 par exemple, où déjà un certain socialisme prend place, même s'il ne s'appelle pas socialiste, et peut-être aussi évoquer la figure de Karl Marx, parce qu'on est avant la période, en l'occurrence.
Ça devient compliqué, mais effectivement, c'est un prérequis, finalement, qu'il faudrait avoir.
Parce que déjà, ça fait un siècle. Hein.
Oui.
C'était un siècle.
Juste plus d'un siècle, c'est même plus d'un siècle à traiter.
Bonjour, je m'appelle Jacques. J'aimerais bien savoir, à partir de 1918, c'est une question qui va plus traiter de l'opinion publique. Lors de la création de la République de Weimar, est-ce que l'opinion publique, vu qu'on voit que ça, c'est quand même un mouvement assez interne, la division entre les deux parties, enfin, entre les deux tendances, est-ce que l'opinion publique va avoir un rôle important à jouer dans cette division? Est-ce qu'elle va vraiment avoir de l'impact?
Ah, c'est une très bonne question, Jacques. Oui, elle va jouer. Elle joue un rôle. Enfin, en tout cas, il faut imaginer ce qui est difficile pour vous, que le climat politique en Allemagne est extrêmement tendu, extrêmement virulent, que les affrontements dans la rue sont, alors entre nazis d'un côté et communistes de l'autre, sont très forts, et que il y a même des combats de rue pour tenir un pâté de maison quasiment. Donc il y a un engagement, il y a une politisation qui est forte à cette époque-là. Dans ce contexte de crise, à un moment donné, les gens cherchent à trouver des solutions.
Merci, merci beaucoup Delphine Rachet. Merci à vos élèves du professeur du lycée Claude Bernard. Merci également à Rémi Pavin qui était là hier pour traiter des mémoires de la guerre d'Algérie, à Thomas Perel et ses élèves qui étaient là avant-hier pour parler du projet d'une Europe politique depuis 92, et à Valentin Chémery qui était là dès mardi pour évoquer le Proche-Orient depuis 1918. Et puisque il y a un thème que nous n'avons pas traité cette semaine qui porte sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, je tenais à vous avertir que la semaine prochaine, le 20 et 21 janvier à Lyon, capitale de la Résistance, eh bien, un grand colloque se tient. Ça sera le premier d'une série de colloques autour de ce thème sur les préfets et préfectures dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est à la préfecture du Rhône, et on retrouvera Marc-Olivier Baruche qui l'organise, mais également Laurent Douzou, Jean-Olivier Vioux, Jean-Noël Thomas, Pierre Alaurent ou encore Bruno Galland, Michel Salager et Virginie Sansico autour de cette question, avec une discussion finale d'ailleurs qui sera sûrement intéressante jeudi 21 entre 16h15 et 18h à la préfecture, à savoir aurions-nous mieux fait une table ronde de clôture sur le rôle des préfets pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'évoquera dans la Fabrique de l'Histoire un peu plus tard, donc, puisque c'est une série de colloques autour de ce thème du rôle des préfets pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marine Von Olivier et Aurélie Marseille. Stéphane Poitvin était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette semaine, les professeurs, les élèves et Séverine Liatard, Séverine Cassard et Aurélie Marseille. La semaine prochaine, nous traiterons de l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement du Cambodge. Mais lundi, nous aurons deux invités qui traiteront de Vietnam et de l'Indochine. Pierre Grosser en première partie et Christopher Gauchat en seconde.